Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est très heureux d'être à Bordeaux ce soir avec vous. Effectivement. Alors, donc, je vais parler de la vie sous la glace. Et j'ai envie de vous poser une question d'abord. Combien parmi vous pensent que la vie sous la glace est aussi développée que dans nos régions? Oui. Ah, parfait, d'accord. Effectivement. Parce qu'en fait, c'est une idée au départ qui surprend. Alors, je dois avouer que personnellement, j'ai eu l'occasion de rentrer véritablement dans la glace grâce à un brise-glace qui est un brise-glace allemand qui s'appelle le Polar Stern, l'étoile polaire. Et c'était en mer de Weddell. Alors, la mer de Weddell, c'est au sud du Cap Horn. C'est une grande échancrure qui est réputée précisément pour son étendue de glace. Et une bonne partie de cette glace, d'ailleurs, prise dans un mouvement circulaire, va disparaître en été, se reconstituer en hiver. Donc c'est un élément qui est extrêmement mobile. Alors, il faut avoir ça en tête pour se rendre compte de l'importance du problème. Par satellite, le recul de la glace antarctique, on peut le voir. Donc, par comparaison, bien sûr, d'un mois sur l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Et a priori, c'était dans les années 80, je n'avais pas grande connaissance à l'époque du système antarctique. Je commençais à travailler sur ce système. Nous ne pensions pas trouver de vie sous la glace, la glace étant constituée, enfin, pensions-nous, disons, bien sûr, de neige compressée ou de mer gelée, mais a priori, ce sont plutôt des éléments hostiles pour la faune. Alors bien sûr, on connaît tous la marge de l'empereur, je pense que vous l'avez vu, et on se rend compte que certains animaux sont parfaitement capables, à condition d'être mobiles, de pouvoir nager sous l'eau, donc de s'écarter de la glace, d'aller plus au large chercher la nourriture. Mais la glace elle-même, nous ne le pensions pas. Alors, un brise-glace, c'est un outil extraordinaire, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne coupe pas la glace. Ce sont des traves qui viennent de son poids, effectivement briser les plaques en deux. Et quand on voit ces plaques qui se retournent, ce que j'ai vu donc à cette époque, c'est ce qu'on appelle la glace brune. Bien sûr, la glace traditionnellement est blanche, mais dans cette glace, on voyait des couches brunes. On s'est évidemment précipité, curiosité du scientifique, et ce sont des micro-organismes. Alors, c'est si riche que, imaginons un moment que vous êtes au bord de la glace et que vous reculez avec le bord de la glace au fur et à mesure que la glace fond. Au fur et à mesure que la glace fond, ces micro-organismes se dispersent dans l'océan, de même que un paysan sème ses graines de blé. La différence, c'est que ces micro-organismes qui sont dispersés, ensemencés en quelque sorte, dans l'océan, immédiatement, vous avez des crevettes qui sortent en embuscade, le fameux krill. Et donc, le krill, en quelque sorte, est la preuve réelle du fait que la nourriture est dans la glace au départ. Et donc, le krill est là derrière. Et bien sûr, avant, vous aviez les baleines. Il n'y a plus de baleines parce que les hommes ont dévasté les troupeaux de baleines, ou presque. Et voilà. Donc, la glace, effectivement, est un milieu vivant. Alors, c'est un peu extraordinaire. Et donc, ça veut dire que, comme on est sur la planète Terre, dans un système qui est photosynthétique, c'est-à-dire qui produit sa matière organique à partir de la lumière, ça veut dire que la glace est transparente. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on va voir alors en plongeant ensemble sous la glace. Alors, je vous amène non plus dans la mer de Weddell, où j'étais sur le brise-glace allemand, mais donc avec cette aventure qui se passe en Terre Adélie, à Dumont-d'Urville. Et quand, pour aller à Dumont-d'Urville, on va quitter Hobart, qui est un port de Tasmanie. La Tasmanie est une grande île qui est au sud de l'Australie. Et tout à fait au départ, on va sur le navire qui s'appelle l'Astrolabe. On va quitter, bien sûr, naviguer dans des eaux libres, libres de glace, dans l'océan turbulent, ceux qui l'ont vécu, effectivement, savent de quoi je parle. On se fait effectivement branler, si vous permettez l'expression. Et puis, petit à petit, on pénètre dans un autre univers, dans cet univers où le navire fait des efforts pour pénétrer. L'Astrolabe, qui est le navire utilisé par l'Institut Paul-Émile Victor, donc l'Institut polaire français, pour simplifier, n'est pas un brise-glace. Il peut simplement couper la glace à condition qu'elle ne soit pas trop épaisse, quoi. Ce qui peut poser problème, j'imagine que j'aurai des questions là-dessus. Et voilà, quand la glace fond au cours de l'été, on finit par arriver, effectivement, à l'île des Pétrels, sur laquelle se trouve la base de Dumont-d'Urville. Alors, la base de Dumont-d'Urville, effectivement, est sur une île. Alors, ça mérite un petit brin d'histoire, parce que tout à fait au départ, après la Deuxième Guerre mondiale, quand Paul-Émile Victor, spécialiste à l'époque de l'Arctique, s'est reconverti sur l'Antarctique, eh bien, Port Martin, qui était le premier port, était dans un lieu qui n'était pas sur une île, qui était véritablement sur le continent, mais qui était beaucoup plus difficilement accessible, voire inaccessible, par les navires. Donc on a décidé, pour des raisons pratiques, de déplacer cette base de Port-Martin sur l'île des Pétrels. Voilà, donc on est sur l'île des Pétrels. Alors, base logistique, base scientifique, donc la vie s'organise pendant l'été. Alors nous, nous avions un but qui était tout à fait particulier, qui était d'étudier la vie sous la glace. Bien sûr, il faut arriver un peu tôt dans la saison. La glace n'a pas encore fondu. Donc plutôt au mois de novembre et décembre, plutôt que le mois de janvier-février. Et il faut être capable de nager, de plonger. Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que imaginez-vous ici, plonger dans une eau dont la température est inférieure à 0 degré. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Eh bien, je vais peut-être me mettre debout, parce que ça me permet de voir les gens qui sont derrière. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ça sera plus agréable, je pense, pour tous. Eh bien, on va tout simplement faire du multicouche. Donc, ce que l'on va faire, c'est, bien sûr, être vêtu comme moi maintenant, avoir un bon pull, donc un bon survêtement, une fois, deux fois, trois fois, et ce n'est que finalement qu'on va enfiler la combinaison de plongée, quatre couches obligatoires. Si vous voulez pouvoir nager pendant plusieurs heures, ce qui est nécessité par les paliers de décompression. Donc, il faut être vêtu mieux que ça. Si vous avez le moindre morceau de peau qui apparaît, qui est au contact de l'eau de mer, vous avez l'impression de plonger dans un bain acide. Immédiatement, votre peau se boursoufle. Donc il faut que tout soit rigoureusement couvert, bien sûr les mains, ça va de soi, et aussi votre peau de visage. Quand vous êtes dans avec cet équipement, alors vous pouvez plonger. Alors nous, ce que nous cherchions au départ, mais vous allez voir que l'aventure va nous entraîner beaucoup plus loin que cela, c'était des coquilles Saint-Jacques. Alors des coquilles Saint-Jacques, pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, je sais, c'est un réel à manger. Mais ça n'est pas la vraie raison. Donc voilà des coquilles Saint-Jacques, ici. Des coquilles antarctiques. La vraie raison, c'est que vous verrez ça sur les images. En fait, vous avez des dépôts, ici, calcaires. Quand vous regardez bien, quand vous approchez, vous verrez. Vous avez des dépôts. Alors, c'est ce qui caractérise les coquilles. Hein. Donc, votre coquille Saint-Jacques a deux coquille, la coquille inférieure, la coquille supérieure, et sur chacune de ces valves, c'est le langage qu'on utilise, vous avez des dépôts de calcaire. Et alors, dans le fond, ça ne vous rappelle rien, ces cernes, c'est un peu comme les cernes d'un arbre. Alors, je ne suis pas spécialiste des plantes, en particulier terrestres, et donc je ne suis pas capable de lire les cernes d'un arbre, je fais comme tout le monde. Quand un arbre est coupé, je vais compter le nombre de cernes et je vais vous dire, cet arbre avait, quand on l'a coupé, donc 25 ans ou 40 ans. Et on peut faire presque pareil pour les dépôts de calcaire de votre coquille Saint-Jacques. Sauf que mes collègues qui sont biologistes spécialistes me disent, ah oui, mais attention, l'écart entre le dépôt numéro 1 et le dépôt numéro 2 n'est pas le même qu'entre le dépôt numéro 3 et le dépôt numéro 4. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre coquille Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un animal filtre. Il ouvre ses valves et il aspire, il pompe de l'eau. Il pompe de l'eau, il va pomper du plancton. Autrement dit, votre coquille vit sur le fond de l'eau, hein, c'est comme chez nous ici. Mais pour qu'elle croisse et pour qu'elle se reproduise, il faut qu'elle ait la nourriture. Donc on va se rendre compte, mais vous venez de me dire tout à l'heure que l'astrolabe, pour arriver à l'île des pétrels, il a dû traverser la glace. Donc ça veut dire qu'il y a une couverture de glace. Donc par rapport à nos mers tempérées ici, la lumière ne peut pas pénétrer en permanence dans les eaux. Donc a priori, on va produire moins de matière et donc votre coquille va être capable, elle doit être capable en Antarctique de se nourrir pendant 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois quand elle a de la chance. Et puis après, elle survit. Elle est végétative. Alors beaucoup des animaux que l'on va trouver sur le fond quand on va chercher nos coquilles, je vais juste vous en montrer quelques exemples ici. Hein. D'accord? Vous avez des étoiles de mer. Vous avez aussi des animaux extraordinaires comme celui-ci. Je vais y revenir, c'est mon préféré. Eh bien, ces animaux sont dans la même situation que la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'ils vont devoir utiliser la nourriture quand elle est là. Et quand elle n'est pas là, elle survit. Donc finalement, et c'est extrêmement curieux, on va trouver dans les eaux polaires des animaux géants. On va trouver des vers que l'on trouve ici, qui ont quelques centimètres, qui vont faire 10 cm de long. On va trouver ce qu'on appelle les colosses, qui sont des espèces de crustacés, avec des grandes pattes, vous avez les photos ici, qui, chez nous, font 1 ou 2 cm, qui vont faire 30, 40 cm. Parce que ils vont se déplacer rapidement sur les proies, tirer leur nourriture, et puis après, bien sûr, quand la situation sera moins favorable. Voilà, vous voyez un petit peu, on rentre dans un univers extrême. Extrême par les températures et aussi extrême par le régime de nourriture qui est limité à quelques mois par an. Alors naturellement, la lumière est moins intense que dans les eaux sans glace, mais la grande surprise, c'est que finalement, la glace et la neige qui se déposent à la surface sont transparentes. Donc la vie est possible. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, les espèces vont s'adapter. Et alors, ce qui est encore plus curieux, c'est que sous la glace, proprement dit, hein, donc imaginez que vous plongez, votre plafond, là, c'est la glace de mer. Eh bien, votre plafond est vert. Votre plafond est vert, pourquoi? Parce que comme la lumière pénètre et traverse la glace, vous pouvez avoir des algues, des petites algues, des micro-algues, qui vont servir de nourriture. Eh bien, je citais tout à l'heure les fameuses crevettes, le krill, là. Voilà. En quelque sorte, ce sont des prairies inversées. Bon, vos prairies sont la tête à l'envers, si je peux me permettre. Et ceci sert de nourriture, bien sûr, aux crustacés qui peuvent nager. Alors, je voudrais revenir sur l'image que j'ai repérée tout à l'heure, parce que j'aime cet animal particulièrement. Je vais retrouver son allure. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est un escargot. Et vous avez l'impression, quand vous regardez l'image de près, on dirait qu'il a des ailes. Il a des lobes, en quelque sorte, pour nager, quoi. Alors, c'est un escargot qui a une coquille calcaire. Et il a ce mouvement ample et doux pour se déplacer seul ou en groupe. Je vous avoue que quand vous êtes en plongée, que vous regardez un tel animal, vous avez l'impression de trouver un oiseau qui développe ses ailes et qui se déplace. L'océan, c'est un peu extraordinaire, hein, et la vie, de façon générale, est un peu extraordinaire, parce que dans un milieu, bien sûr, ça n'a pas la même fluidité. Ici, c'est de l'eau par rapport à l'air pour les oiseaux, et on a reproduit finalement les mêmes mécanismes pour se déplacer. Donc il y a une certaine continuité de la façon dont la vie s'adapte, bien sûr, à leur environnement. Donc voilà ces escargots. Alors, ils ont une histoire aussi particulière parce que vous savez sans doute que les eaux qui sont froides, les eaux polaires. Donc c'est vrai bien sûr pour nous ici, pour l'Antarctique, mais vous devinez aussi que c'est vrai pour l'Arctique, d'accord? Les eaux qui sont froides absorbent très bien les gaz de l'atmosphère. Ça, c'est la physique qui nous dit ça, hein. C'est tout simplement les eaux froides dissolvent les gaz. De ce fait, quand votre atmosphère est chargée en fameux gaz carbonique, hein, l'eau va s'enrichir en gaz carbonique. Et que fait une eau qui s'enrichit en gaz carbonique? Elle devient plus acide. Et vous savez ce qui se passe quand on met un petit peu d'acide sur un morceau de calcaire, un morceau de craie, le calcaire. Voilà. En fait, c'est ce qui risque d'arriver à ces animaux calcaires, y compris à mes fameux coquilles Saint-Jacques, dont je parlais tout à l'heure, parce que ce sont des coquilles calcaires. Donc, ce sont des espèces qui sont effectivement menacées par ce que l'on appelle l'acidification de l'océan, qui est donc due à la rentrée de quantité additionnelle de CO2 dans les eaux froides. Alors, en fait, on va progressivement, en plongeant, bien sûr, on va trouver non seulement des algues microscopiques, mais puisqu'il y a la lumière, on va aussi trouver des grandes algues. On va trouver des laminaires, comme chez nous. On va trouver des forêts de laminaires, ce qui surprend finalement, hein, parce qu'il y a la lumière qui pénètre, quoi. On va trouver des poissons qui vont se nourrir des algues. On va trouver des oursins. On va même trouver des anémones de mer, des anémones de mer géantes. Anémones de mer géantes, eh bien, on va revenir sur la raison de cela. Tout ça malgré l'extrême froid, effectivement, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans le même mécanisme. Une anémone ici, chez nous, fait quelques centimètres de diamètre, quoi. Quelque chose comme ça. Bien sûr, les tentacules peuvent s'étendre au-delà. Mais ici, on peut avoir une anémone qui fait 1 mètre de diamètre. Avec les tentacules qui se développent d'autant, quoi. C'est la même logique que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, tout simplement, comme il y a peu de nourriture, l'anémone, comme les autres espèces, sont capables rapidement de croître. Et ensuite, bien sûr, il y aura la période de survie, quoi, qui sera plus difficile. On va trouver des étoiles de mer, de toutes les couleurs, des rouges. Alors, c'est ça qui est fascinant. On imaginait dans un milieu obscur que la couleur n'existe pas, mais si, quoi. Alors, je reviens un petit peu sur la raison de la couleur dans l'océan. Ça existe et c'est vraiment extrêmement beau. Et vous avez des animaux comme celle-ci, des brios de mer qui flottent au gré des courants. Il y a un petit peu de marée quand même à Dumont-d'Urville. Hein. Et donc on va voir effectivement ces animaux flotter au gré de l'eau. Alors pourquoi donc y a-t-il de la couleur dans l'océan? Ça, c'est une question qui m'a toujours beaucoup intrigué. Pourquoi l'océan, tout simplement, c'est pas la matière organique qui est grise, enfin, qui n'a pas de couleur, qui est un peu comme nous. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, sans doute, que l'on peut évoquer. Et dans une conférence précédente, j'ai eu une question d'une petite fille tout à l'heure qui était tout à fait pertinente. Pourquoi est-ce que ces animaux sont parfois luminescents? Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont capables eux-mêmes de produire de la couleur? En fait, c'est un mécanisme qui est assez courant, en tout cas dans l'océan. Et il y a deux raisons possibles à cela. D'abord, pour le mâle, se faire reconnaître de la femelle, ou de la femelle se faire reconnaître pour le mâle. Donc, l'attractivité. Être attractif pour son compère, son conjoint. Et puis, à l'inverse, je peux prendre du volume, je peux prendre une couleur qui est extrêmement brillante pour nous, pour effrayer les prédateurs. Donc, ce sont des mécanismes qui sont tout à fait efficaces, notamment dans les abysses. Ça, c'était totalement bluffant. Quand on plonge dans les abysses, à bord de nos sous-marins, qui permet de voir, ou si elle est de caméra, hein, on a la surprise de voir des animaux extrêmement variés et colorés. C'est exactement le même processus dans les eaux polaires, dans les eaux de l'Antarctique, de ce point de vue-là. Ça n'est pas différent, quoi. Ce qui est différent, c'est leur caractère, leur aptitude à croître rapidement et ensuite à se ratatiner comme survivre. Alors, on a des surprises dans ce qu'on appelle donc la chaîne alimentaire, parfois, puisque il peut arriver que, par exemple, quand l'astrolabe qui mouille au large de l'île des Pétrels, hein, l'astrolabe, sous le navire, quand on plonge sous le navire, on va trouver parfois, on peut trouver des manchots, de jeunes manchots, qui, faute de nourriture, ou alors ils ont été à demi capturés par un léopard de mer, j'y reviendrai, ou par un prédateur, quoi, donc qui meurent, qui chutent, et qui sont au fond de l'océan. Grande surprise, les prédateurs de ces animaux, ce sont ces grands escargots, ou ces grands vers. Voilà, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas ici chez nous, hein. On ne connaissait pas ce régime alimentaire, mais vous voyez, autrement dit, les animaux, pour survivre dans ces eaux froides, développent des stratégies particulières dont la vie est capable d'une extraordinaire adaptabilité. Alors, pour les animaux qui sont calcaires, effectivement, on ne sait pas tout, par conséquent, quoi. Mais certains d'entre eux sont capables d'avoir, en quelque sorte, des estomacs extérieurs pour, effectivement, récupérer un surplus de nourriture. Voilà encore une autre façon pour essayer de s'en sortir coûte que coûte. Et on peut aussi se dire, mais dans le fond, ce milieu n'est pas stable. Je veux dire que on voit déjà qu'il y a donc ce retrait, cette avancée saisonnière de la banquise en surface, quoi. Mais l'île des Pétrels se trouve sur le flux d'un glacier, qui s'appelle d'ailleurs le glacier de l'Astrolabe, même nom que le bateau, parce que c'était un des bateaux du Mont d'Urville, enfin c'est une autre histoire. Et donc, en quelque sorte, imaginez ces masses d'eau gelée, hein, parce que c'est l'eau douce gelée, les icebergs, quoi, qui arrivent sur le fond, une véritable charrue. Ça décape absolument tout ce qui est sur son passage. Par conséquent, quand ça arrive, et ça arrive, hein, que les glaciers, le mot que l'on exprime, c'est « vèle », comme une vache vèle son veau, « vèle les icebergs ». Eh bien, on assiste à des traînées qui sont totalement dévastées. Et comme on devine finalement que le chemin que suivent les icebergs dépend de la topographie, mais pas toujours. Quand vous avez des vents, les vents vous déportent les icebergs, quoi. Donc on peut se dire aussi que les organismes qui sont capables de résister à ces conditions extrêmes doivent être capables de récupérer rapidement. C'est un peu un mystère, hein, finalement, de recoloniser rapidement des espaces qui ont été désertés auparavant. Alors quand nous avons cherché les coquilles Saint-Jacques pour la première fois, il y a eu 3 missions. La première fois, pour être tout à fait honnête, on n'arrivait pas à en trouver, mes collègues qui plongent, hein, n'arrivait pas à en trouver de champs. Alors, en fait, ce sont des pétongles, hein. C'est comme les coquilles Saint-Jacques. Et ils ont ramené quelques espèces. On se dit beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Parce que, effectivement, cette année-là, le glacier de l'Astrolabe avait vélé beaucoup d'icebergs et on trouvait surtout des champs dévastés. Par chance, les 2 années qui ont suivi, la situation était beaucoup plus stable du point de vue glaciaire, en l'occurrence. Et alors, on a assisté à cette magnificence. Et toutes ces images, pour l'essentiel, ont été acquises pendant cette période, donc ces années plutôt, relativement calme. Donc en fait, c'est ça qui caractérise finalement le milieu antarctique, c'est l'instabilité. Et donc la capacité de la vie à s'adapter à ces conditions extrêmes et à cette instabilité, je dois dire, nous bluffe. Alors, je reviens quelques instants sur les coquilles Saint-Jacques, finalement, parce que, donc on a vu qu'elles font des stries, elles déposent leur calcaire, hein, donc sur ces stries, et finalement, ce qui se passe en Antarctique, est aussi vrai en Arctique, par exemple, hein. Et en Arctique, nous avons des espèces. Laurent Chauveau, en ce moment, là, qui est l'un des auteurs, est au Svalbard, qui est au Spitzberg, donc qui est 80 degrés de latitude nord. Ouais. Et là, on a une espèce qui vit 80 ans. Alors, c'est une espèce qui n'est pas très grande, finalement. Donc, ça contredit un peu ma règle du gigantisme possible. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, qui va mettre 80 ans arrivé à sa taille actuelle, qui est de l'ordre d'une douzaine de centimètres. Et en fait, avoir quand cet animal meurt, finalement, qu'est-ce qu'on a? Une espèce d'archive. On a une archive, finalement, qui va nous dire quelle était la variation de l'environnement, quand on sait l'interpréter, hein, pendant 80 ans. Alors, par chance, ce que je dis là aussi, la notion d'archive est vraie ailleurs, par exemple aussi dans l'Antarctique, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'une fois les coquilles, les pétoncles morts, les coquilles, les valves vont se déposer sur le sédiment, d'accord, vont être conservées tant que l'eau ne sera pas trop acide, en tout cas, quoi. Ce qui nous permet en fait d'avoir un outil pour reconstituer l'histoire du système, l'histoire de l'écosystème. Donc en fait, finalement, on est en train de faire ce que l'on appelle de la paléo-océanographie, c'est-à-dire pas seulement l'océanographie moderne, quoi, mais on peut reconstituer pendant au moins la durée des dépôts, quoi. On peut reconstituer ce qui s'est passé pendant les décennies précédentes. Donc, vous voyez comment, avec un animal qui est au départ intéressant pour la consommation humaine, très agréable à manger, on peut en faire un outil scientifique, quoi, tout à fait inattendu. Et en le cherchant, finalement, on va arriver à reconstituer comment marche la vie sous la glace, comment marche l'écosystème antarctique. On va essayer de comprendre. Voilà comment, grâce à des plongées, on y arrive. Alors, j'avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur un sujet, il y a des risques à plonger en Antarctique. Effectivement. Donc on imagine bien sûr qu'il y a le risque de la température, mais celui-là, lui, c'est multicouche, ça va. Donc il faut, encore une fois, pas de surface apparente, donc on tient le coup. Mais quand les plongeurs envisagent une campagne de plongée, les instructions sont extrêmement sévères. Jamais vous ne vous approcherez d'iceberg. Pourquoi? Parce que l'iceberg, vous le savez, a le 9 dixième de son volume immergé. Et la glace, bien sûr, c'est quelque chose de froid. Donc, relativement à la glace, l'eau antarctique, même si elle est froide, est plus chaude. Et donc, elle va éroder, faire fondre progressivement la base immergée. Et à un moment, le centre de gravité change et l'iceberg bascule. Alors, imaginez qu'un plongeur se trouve à proximité d'un iceberg. À ce moment-là, bien sûr, on ose penser ce qui arriverait, quoi. Donc finalement, dans les premières plongées, il fallait surtout pas s'approcher d'iceberg. Mais en fait, l'expérience aidant, on apprécie la capacité d'un iceberg à basculer, ou non, et on y va. Et donc on découvre les choses absolument merveilleuses qui ont effectivement donné lieu à ces photos dans les couloirs du métro, hein, de Montparnasse. Donc premier danger, donc ça on le maîtrise bien. Deuxième danger qui est, est-ce que l'homme a des prédateurs? La réponse est oui, en particulier les léopards de mer. Donc c'est un léopard avec des canines. Je préfère être loin de ces canines plutôt que près. Et quand il est tout simplement avide de nourriture, il se précipite sur un homme comme n'importe quel manchot qui passe par là. Hein. Pas de problème. Donc en fait, les consignes, c'est attention aux prédateurs. Alors pour cela, la règle, c'est qu'il faut être toujours deux pour plonger, de telle sorte que pendant que l'un se focalise sur son sujet favori, les coquilles Saint-Jacques ou les étoiles de mer, etc., l'autre a un œil circulaire. Alors c'est arrivé une fois, Laurent et Arwan étaient en plongée. Et donc, obligatoirement, il y a quelqu'un de l'équipe qui est sur la glace pour avoir un œil circulaire, quoi. Et cette fois-là, le trou s'était agrandi. Et c'est Yves-Marie, un autre collègue, qui était en embuscade, et il a vu se déplacer quelque chose qui était anormal. Alors, qu'a-t-il fait? Il a lâché un pétard dans l'eau. C'était le signal d'alerte, quoi. Et par malchance, le pétard n'a pas explosé. Alors, nos deux plongeurs avaient effectivement distingué une ombre un peu anormale, mais finalement, ils ont terminé leur campagne de mesure sans problème. Ils sont venus à la surface, Yves-Marie leur disant: Attention, 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 vous avez un léopard. Ils sont tous remontés sur la banquise, sans doute cette fois-là, le léopard, s'étaient contentés d'un manchot, je ne sais pas, mais ils avaient eu un peu de chance. Donc c'est effectivement un risque qu'il ne faut pas sous-évaluer, parce que malheureusement, il y a des accidents. Ouais. Merci.